Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à toutes une chacune et à tout un chacun. C'est ce soir, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, dans l'émission générique Les Chemins de Traverse, ce soir c'est « Et si on en parlait ?» Alors, et si on en parlait, on va parler de beaucoup de choses. Non, on ne va pas parler beaucoup de choses, on va parler d'une seule chose. On va parler d'un accident qui s'est déroulé dans la région de Rouen. Et on va essayer de faire le point sur cet accident, sur ce qu'on nous en a dit. Et puis, on va tout doucement descendre vers notre proximité dans le Beaujolais Val-de-Saône et encore plus resserré sur la région de Villefranche pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, on va analyser la façon dont... Enfin, on va évoquer la façon dont l'information nous a été donnée et on va évoquer aussi les informations qui sont à disposition de tout brave citoyen qui se veut actif pour savoir comment s'informer et puis pour pouvoir aussi peut-être analyser ce que les pouvoirs entre guillemets publics nous disent ou nous racontent. Alors, bien entendu, vous avez compris qu'on allait parler de l'usine Lubrizol. Alors, l'incendie du site de l'usine Lubrizol à Rouen, s'est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019. C'est tout neuf. Alors, Lubrizol, c'est quoi ? Ben, ça fabrique des additifs pour lubrifiants, alors des huiles, des carburants, des peintures. Alors, cette usine, elle a été créée en 1954 et elle compte environ 400 employés. Alors, l'entreprise, elle appartient, il faut savoir à qui appartiennent les choses qui nous gênent ou qui nous dérangent ou qui nous rendent malades. Cette entreprise, elle appartient à un conglomérat. Alors, c'est la Berkshire Hathaway. Elle est dirigée par le milliardaire américain Warren Buffett. Alors, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le troisième homme le plus riche du monde, hein, selon un classement par Forbes, avec une fortune estimée à 82,5 milliards de dollars. Donc, quand on a ces moyens-là, on a aussi le moyen de tenir la population informée des conséquences de son activité. Mais enfin, il paraît que non. Alors en 2013, hein, quand même, parce que là on est en septembre 2019, mais en 2013, eh ben, un accident industriel avait déjà eu lieu sur le site, entraînant une fuite de mercaptan. C'est un gaz super nauséabond. Le même accident s'était déjà produit en 1975 et 1989. Un départ de feu a également eu lieu le 3 septembre dernier, c'est-à-dire qu'avant le 25 et 26 septembre, il y avait déjà eu un petit incendie dans cette usine. Comme quoi, je ne sais pas, ça devrait attirer l'attention, enfin, je ne sais pas. Donc l'usine n'en est donc pas à son premier accident, elle semble même être, comment dirais-je, plutôt coutumière du fait. Alors l'usine Lubrizol est classée Céveso, seuil haut. Alors, on verra plus tard ce que ça veut dire. Elle se situe dans un centre-ville, hein, sur la commune de Rouen. Elle est entourée d'habitations, hein, il y a plein de gens qui vivent autour de tout ça, au cœur d'une grande métropole de plusieurs centaines de milliers d'habitants, se trouvant sous les vents dominants, donc qui peuvent transporter, voilà, tout ce que les vents peuvent transporter. L'usine dont l'incendie n'est pas encore complètement terminé, là ils sont encore en train d'enlever tout, et puis il y en a pour un moment apparemment, toutes les saletés que ça a déposées sur le sol, sur les berges, dans les rivières, les champs, les écoles, tout ça, enfin bon. Hein, alors les pompiers sont toujours en intervention. Cette usine donc, elle contient des quantités importantes d'hydrocarbures et autres produits chimiques. 2500 tonnes d'hydrocarbures sont stockées sur la zone entourant directement l'usine et elles ont brûlé. Les combustions incomplètes d'hydrocarbures peuvent générer des hydrocarbures polycliniques aromatiques, les HPA, qui sont fortement cancérigènes. On en trouve par exemple dans la fumée du tabac et sur les paquets de cigarettes, il y a marqué, grâce entre autres à ce produit, Fumais-tu ? Enfin. Donc, cet incident, cet important incident qui a lieu, nous apprend que cette usine était classée donc Seveso seuil haut. Alors, de quoi s'agit-il ? Quelles sont les mesures de protection mises en place ? Quesaco, Seveso. Alors, le terme Seveso, il vient du nom de la commune italienne, Seveso donc, qui est proche de Milan, qui a connu une catastrophe écologique en juillet 1976. Un nuage de dioxine, alors ça c'est une vraie saleté, hein, s'est échappé alors de cette usine chimique après une explosion provoquant l'hospitalisation d'enfants des communes voisines et la mort de plusieurs milliers d'animaux d'élevage. Bien entendu, aucune étude n'a été réalisée sur le long terme pour un suivi sanitaire des populations. Alors, combien de cancers, combien de maladies, combien de malformations à la naissance, on ne sait pas. Voilà. En 1982, les pouvoirs publics européens se référaient donc à cet accident de Seveso pour créer une série de directives afin de prévenir tout risque d'accident majeur sur un site industriel présentant un risque potentiel. Alors, ces directives ont été révisées à plusieurs reprises et la directive Seveso 3 est entrée en vigueur en 2015. Alors, les sites Seveso, il faut savoir, ils sont classés en deux niveaux de risque en fonction de la quantité des matières dangereuses qui sont présentes sur ces sites. Alors, il y a les établissements Seveso seuil bas. Alors, bon, ça, c'est moins grave, paraît-il, nous dit-on. Mais il y a surtout aussi les établissements Seveso seuil haut, ce qui était le cas de l'usine Lubrizol. Alors, à Rouen, donc, là, c'est nettement plus grave. Selon les chiffres du ministère de l'Écologie, au 31 décembre 2015, hein, on remonte en arrière, maintenant ça a peut-être évolué, la France compte plus de 1250 sites classés et 700 en seuil haut. On en a 5 dans la région de Villefranche, hein. Alors, 561 en seuil bas. Dans l'Union européenne, il y a 10 000 sites Seveso. Vous vous rendez compte, et tout ça, c'est toujours à proximité des zones habitables et habitées. Alors, qu'est-ce que ça implique, un risque Seveso ? Eh bien, la directive Seveso 3, donc, elle comporte de nouvelles obligations pour les sites industriels qui sont concernés, notamment la notification sur Internet d'un certain nombre de données, la nature des substances sur Internet, donc à disposition de tout le monde. Hein, on doit dire quelles sont la nature des substances stockées, les risques associés. On doit donner les coordonnées des personnes en charge des plans d'urgence, les comportements à adopter en cas d'urgence ou encore à la date de la dernière inspection. Alors, comment se fait-il que l'on nous dise, on l'a entendu sur tous les médias, qu'à Lubrizol, personne n'était en mesure de nous dire quels étaient les produits stockés, ni quelles mesures de protection devaient être mises en place. En France, un classement Seveso implique la mise en place de dispositifs visant à renforcer la sécurité et qui varient selon la quantité des produits à risque. Alors, ces dispositifs sont le PPRT, c'est le plan de prévention des risques technologiques des établissements Seveso seuil haut, qui est fait entre les préfectures, les collectivités locales et les sites industriels. Et le PPI, le plan particulier d'intervention, qui définit l'organisation des secours en cas d'accident grave. La législation, elle implique aussi l'information du public. Je reviens à ce que je disais préalablement. Comment se fait-il que l'on ne savait pas ? Alors, l'information du public, c'est-à-dire qu'une alerte est déclenchée par une sirène qui retentit pendant plusieurs minutes. Ce fut le cas à Lubrizol où elle a retenti dans plusieurs aussi communes de la Seine-Maritime pour prévenir les habitants. Et les habitants, quand ils entendent, s'ils l'entendent sonner une sirène, ils sont censés faire quoi ?
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise.
Alors l'explosion de la semaine dernière à l'usine chimique de Lubrizol, donc à Rouen, elle démontre quand même de nombreuses défaillances sur les sites Seveso. Un manque d'informations, on l'a déjà évoqué, des systèmes d'alerte inefficaces, on n'entend pas, on sait quoi faire quand on les entend, et aussi, récemment, un assouplissement du droit environnemental. Le gouvernement a promis de tirer les leçons, bien entendu, de l'implantation de ce type d'usine à travers le territoire. Alors l'accident, il a relancé le débat sur la présence d'activités potentiellement dangereuses à proximité des villes et des riverains. Mais, quand on connaît tout ça, pourquoi les règles de protection, les règles du droit environnemental ont-elles été changées? Alors Ginette Vastel, qui appartient à l'ONG France Nature Environnement, elle a tiré la sonnette d'alarme sur le détricotage, comme on dit maintenant, du droit environnemental au fil des années. Elle dit « Désormais, en cas de travaux, un site Seveso n'est pas forcé d'élaborer une étude d'impact si la modification n'est pas considérée comme notable, mais il s'agit d'une appréciation totalement subjective. » On ne sait même plus de quoi on parle, à part que l'on sait que maintenant, quand une entreprise classée Seveso veut s'agrandir, veut augmenter sa production, eh bien, elle n'est plus soumise à un dossier d'étude d'impact. Or, justement, donc, toujours selon actuenvironnement.fr, que je vous invite à consulter, l'usine de Lubrizol a bénéficié de 2 autorisations d'augmentation de stockage cette année, sans évaluation environnementale préalable, grâce à des assouplissements de la réglementation par l'actuel gouvernement. Autre défaillance notable qui a mis en exergue l'accident de Rouen, le manque d'information du public, c'est ce que je disais, et l'inefficacité des systèmes d'alerte. Le préfet et les collectivités sont tenus d'organiser des campagnes d'information tous les 5 ans sur les consignes à suivre en cas d'accident, affichage en mairie, livre d'information, etc. Mais la défiance des riverains de Lubrizol montre bien l'inefficacité de ces démarches. Les gens ont de plus en plus de mal à trouver l'information alors qu'il faudrait leur apprendre à réagir en cas d'accident à travers, par exemple, des exercices. Alors, les sirènes qui ont retenti dès 7h30 le matin à Rouen ne semblent pas avoir eu d'effet. La sirène n'est souvent pas entendue. Et quand bien même elle l'est, les consignes associées à l'émission d'un signal sonore ne sont pas connues. Dois-je évacuer? Dois-je me confiner? Pourquoi la sirène sonne-t-elle? Quasiment personne n'a de réponse à ces questions. Enfin, bien que les normes auxquelles sont soumis les sites Seveso soient contraignantes, encore faut-il pouvoir vérifier leur mise en œuvre. Or, il n'y a actuellement que 1500 inspecteurs affectés auprès des 500 000 installations classées pour l'environnement que compte la France.
Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise.
Arrivons un petit peu vers chez nous. Je vous disais que la région de Villefranche compte énormément de sites à risque, des sites classés pour la IPE, là, pour la protection de l'environnement. Et on en a 3-4 qui sont classés Seveso, risque haut. L'un d'eux, c'est Bayer SAS Division Crop Science à Lima. Alors, c'est une entreprise qui, en 20 fois ou 350 personnes, travaille. Elle a été créée en 1976. Ses activités... C'est la formulation, le conditionnement dans les emballages commerciaux, le stockage et la livraison de produits herbicides, insecticides, fongicides, utilisés notamment sur la vigne, les cultures céréalières et l'arboriculture. Les risques sont l'incendie, les fumées toxiques, les pollutions. Les caractéristiques du danger, c'est des produits auto-chauffants, donc ça peut démarrer tout seul, des liquides qui peuvent s'enflammer, etc. Et ce sont des produits dangereux pour l'environnement. Alors les communes concernées, apparemment, sont Lima et Villefranche-sur-Saône, mais bien entendu, les vents dominants, etc., on connaît tout ça. Un exemple. En septembre 2006, je remonte à loin, mais 2006, ce n'est pas si loin. Et il y a aussi tout ce que l'on ignore. En 2006, il y a eu un incident à Lima, donc dans cette usine de Bayer Crop Science. Alors, le plan préfectoral d'intervention a été déclenché, donc en septembre 2006, après un échauffement anormal, donc ça s'est auto-échauffé, de 17 500 kg de produits fongicides qui étaient stockés dans l'usine Bayer Crop Science. Cet incident, bon, il démontre une nouvelle fois l'urgence d'améliorer le contrôle et la sécurité de ces installations, bien entendu. Il démontre aussi le bien fondé de la colère des inspecteurs des installations classées qui réclament davantage de moyens pour contrôler ces établissements et la nécessité de renforcer notre système de prévention des risques industriels. Les pompiers de l'entreprise Bayer Crop Science, à cette époque, donc, ils ont entamé le traitement des 17 500 kg de produits fongicides qui représentait un échauffement anormal. Le plan préfectoral d'intervention, mobilisation des sapeurs-pompiers, de la police, des maires, diffusion des messages d'alerte auprès de la population, nous dit-on, a été déclenché. Ce produit fongicide, il est appelé le mancozeb, il était stocké dans des sacs de 500 kg. Sur 300 sacs, 35, plus de 10%, présentaient une température anormalement haute. Les pompiers ont immédiatement isolé ces sacs dans un périmètre de sécurité. Cet échauffement a dégagé une très forte odeur qui peut s'apparenter à celle d'une décharge à ciel ouvert. Le produit, qui irrite les voies respiratoires supérieures, n'a d'après la préfecture et la société provoqué aucune conséquence sur la population et l'environnement.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien.
Voilà, donc c'était les cow-boys, les fameux cow-boys qui nous chantaient plus rien. Alors, on parlait d'une usine, on va en parler d'autres, pour savoir que tout va bien dans la région de Villefranche. Il y a une usine aussi qui est l'usine Caron à Arnas. Alors cette usine, donc, elle fait du stockage et de distribution de produits chimiques, risque pollution, machin, etc. Ce sont des produits dangereux pour l'environnement. C'est la préfecture qui nous dit tout ça. Et donc, cette usine, elle est soumise à des contrôles, à des obligations, à un cahier des charges, à tout ce que l'on veut et tout. Mais malgré tout, elle a l'air de vouloir s'y conformer, plus ou moins, à reculons. Par exemple, le 13 juillet 2016, la direction départementale de la protection de la population, sous le contrôle de la préfecture du Rhône, a envoyé un arrêté de mise en demeure à cette usine. C'est en 2016, tout à l'heure on était en 2006, là on a fait 10 ans en avant, on en est toujours là. Qu'est-ce qu'il dit cet arrêté de mise en demeure. Quelques extraits. Considérant qu'une visite de l'établissement d'Arnas, exploité par la société Caron, a permis à l'inspection des installations classées de faire les constatations suivantes. L'exploitant n'a toujours pas répondu à ses obligations d'alerte et d'information des populations. On fait quoi quand la sirène sonne ? Eh bien, Caron, il s'en tape. La société n'a pas soumis à l'approbation du préfet ses propositions pour l'information préalable de la population concernée par les risques encourus et les consignes à appliquer en cas d'accident et d'alerte des populations. Donc, cet arrêté de mise en demeure arrête. La société Caron, rue Grange-Morin, à Arnas, est mise en demeure de respecter, avant la mise en place des mesures techniques de maîtrise des risques prévus, etc., toutes les dispositions prévues par les arrêtés qui autorisent son financement. La société Caron, donc, n'a pas informé en 2016 la population.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise.
Mais c'est pas tout, hein. Là on est passé de 2006 pour une entreprise à 2016 pour une autre. Eh bien maintenant on arrive au 14 août 2008, hein, 2018. Et ça fait pas un an, hein. Toujours pour la même entreprise. Un autre arrêté de mise en demeure de la préfecture, toujours de la direction départementale de la protection des populations, etc., qui dit que, extrait, considérant qu'une émission de substances toxiques, donc ça veut dire qu'il y a eu un accident, il y a eu une pollution, une dispersion de substances toxiques, donc dans l'air, qui est survenue le 1er août 2018, à la suite du déversement de substances dangereuses lors d'une opération de conditionnement, a été à l'origine d'odeurs incommodantes des riverains, considérant que de l'ammoniac concentré à 32% était impliqué dans l'incident survenu ce 1er août, alors que l'étude des dangers du dossier du 18 avril 2016 ne mentionne que l'ammoniac concentré à 25%. Donc ils sont autorisés pour 25% et il mettait à 32%, considérant dans ces conditions qu'il convient d'imposer à l'exploitant de respecter les conditions d'exploitation qui avaient été présentées, eh bien voilà, la société Caron, dont le siège est situé 3 rue Machin, etc., etc., dans un délai de 24 heures, devait respecter l'arrêt qui lui autorisait de traiter 25% de ses produits au lieu de 36%. Alors on pourrait penser que, face à ça, tout le monde était vigilant. On est en 2018. Hein. Tout le monde savait que, voilà, il fallait vérifier. Une fois, il y a eu, on n'a pas informé la population. Une fois, il y a eu, on dépasse les seuils autorisés. Et ben donc, on va contrôler. Eh ben, regardez donc. Il y avait un exercice de sécurité qui était prévu sur le site de cette entreprise, qui était prévu le 12 décembre 2018. Alors, c'était un exercice de sécurité civile, hein, qui devait vérifier le respect des dispositions du plan d'intervention, etc. Eh ben, il a été annulé. Il a été annulé par la préfecture, on ne sait pas pourquoi. Cet exercice, après toutes les remarques qui avaient été faites, et dont certaines très récentes, eh ben, ma foi, il sera programmé ultérieurement.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise.
Alors, face à tout ça, face à un ministre qui dit que tout va bien, à des sociétés qui disent que tout va bien, face à des réglementations qui sont respectées. Voilà, hein. Qu'est-ce qui cloche, donc ? Alors, face à des accidents de ce type, C'est comme dans le cas du nucléaire, on en reparlera plus tard. Du reste, nous nous sentons impuissants, hein, parce que nous ne disposons pas d'autres informations que celles que les autorités veulent bien nous communiquer. La pollution de l'air, de l'eau, de la terre, des aliments nous apparaît comme un problème complexe, technique, enfin on veut nous le faire apparaître. Si bien que l'on se voit vite contraint de déléguer la prise en charge de cette question à des experts patentés. Ben non. La vérité arrive souvent trop tard, lorsque les conséquences sur la santé sont déjà irréversibles. Dans un monde où de tels événements sont hélas appelés à se produire et se reproduire toujours plus fréquemment, la réappropriation collective du savoir, des moyens de mesure, de la connaissance des poisons produits par l'industrie apparaissent comme une nécessité. Comme d'habitude, dans ce genre de cas, la communication du gouvernement se veut rassurante, quitte à frôler le déni ou la contradiction. Alors la palme de l'euphémisme, tout sauf rassurant, revient sans doute au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, venu se faire photographier auprès des pompiers, déclarait « Comme tout panache de fumée, il comporte un certain nombre de produits dangereux, mais selon les analyses réalisées, pas de dangerosité particulière, même s'il faut éviter d'inhaler ces fumées. En bref, aucun danger, mais évitez quand même de respirer parce que c'est quand même peut-être bien dangereux. » Alors les éléments de langage habituels sont déployés, il ne faut pas céder à la panique, l'incendie est maîtrisé, on nous promet la transparence de l'information en direct de la population, on met en place des cellules psychologiques. Alors le panache de fumée a beau être anxiogène, les résultats des premières analyses sont rassurantes, nous déclare le préfet de Normandie. Avec tout ce que l'on apprend en ce moment, on n'est pas sûr que ça soit le cas. Eh bien, regardez donc, toujours dans le même coin, à Rouen, juste à côté, à quelques kilomètres, 6 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, près du Rouen, donc, Borealis, une autre usine chimique de l'agglomération, classée elle aussi Seveso, seuil haut, eh ben elle a été mise à l'arrêt, dis donc. L'usine Borealis, située à Grand-Quevilly, donc près de Rouen, qui produit des engrais encore, a déclenché son plan d'organisation interne à la suite d'une perte d'alimentation électrique qui nécessite la mise à l'arrêt pour mise en sécurité de l'installation, nous dit-on. Alors, selon les premières constatations, cette perte d'alimentation électrique serait due à l'échauffement d'une cellule, etc., etc. Alors bon, juste à côté, 6 jours après, le représentant de la CGT, la représentante du reste de la CGT de ce site, alors que personne d'autre ne nous l'avait dit, dit que cet arrêt a été déclenché suite à un incendie. Alors donc, dans ce genre de circonstances, le plus grave est qu'à aucun moment, les différents acteurs à qui la parole est donnée, les représentants de l'État, les politiques, les experts, les médias, enfin tous ces braves gens, ne posent les questions qui fâchent. Et elles sont lesquelles? C'est quoi ces questions? Pourquoi existe-t-il de telles usines dans nos villes? Et pourquoi existe-t-il encore de telles usines tout court? Quelle est leur raison d'être? Au nom de quoi notre santé, celle de nos proches, de nos enfants, est-elle constamment mise en péril? Alors on envisage trop souvent les ravages de l'industrie à travers le seul prisme de l'accident. Lorsqu'éclate, voilà, un truc comme Lubrizol. Mais le terme d'accident n'est peut-être pas approprié dans tant ces sites industriels et la logique de profit qui justifie leur existence contiennent dans leur fonctionnement normal l'exposition potentielle de ceux qui travaillent et de ceux qui y vivent aux alentours, à la maladie et à la mort. Parce que quand un accident se provient, c'est diffusé. Mais il y a des gens qui, au quotidien, les salariés, travaillent dans ces usines et sont en permanence en contact avec ces produits nocifs. Alors combien de Seveso, de Bhopal, de Tchernobyl, de Fukushima ou de Lubrizol, faudra-t-il encore pour comprendre qu'il ne s'agit pas de regrettables accidents industriels? Combien de pluies toxiques, d'empoisonnements massifs, d'épidémies, de cancers, pour arriver à la conclusion logique que toutes ces industries mortifères des hydrocarbures et de la chimie, du nucléaire, ne sont pas à contrôler, réguler ou à sécuriser, mais à abolir. Voilà, c'était « Et si on en parlait ?» À bientôt.